With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je légaliserai l'usage du cannabis. Je veux que nous ayons dans ce domaine-là une politique qui soit une politique beaucoup plus offensive.
Bien. Offensive. Je choisis la solution offensive.
Ouais.
Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est.
Honnêtement, ça prend quoi? Un an d'expérimentation? Allez, on te fait traîner un peu, un an et demi? Le rapport qui est réalisé? 6 mois? À partir de ces 6 mois, on rend un rapport et on construit un texte de loi et les décrets qui vont avec pour organiser les filières, etc. Ça met un an supplémentaire? Et on fait voter le texte en 3 ans, 3 ans et demi, ça traîne un peu, il y a du débat, il y a des manifs, nanana. Bon, allez, 4 ans. Qu'est-ce sur un mandat d'un président, c'est sûr que vous pouvez le faire, quoi.
Eh ben voilà, c'est pas si compliqué que ça, 4 ans pour légaliser le cannabis en France, qui dit mieux?
Bon, alors le seul souci, c'est que, attention, spoiler, celui que vous venez d'entendre n'a pas été élu à la présidence de la République. Il a pourtant tenté, hein, en 2017, avant de se mettre en retrait de la vie politique.
Allez, fin du suspense, notre invité s'appelle Benoît Hamon, et c'est l'épisode 14 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel?
Des bananes.
Vous en voulez?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau!
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Salut Christophe.
Salut Camille.
C'est un épisode un peu spécial qu'on vous propose aujourd'hui, car dans Banana Kush, on a plus l'habitude de recevoir des artistes, des humoristes, des acteurs, des actrices, ou même des as de la cuisine. Bref, à peu près tout, sauf des anciens candidats à la présidentielle.
Souvenez-vous, en 2017, le Parti Socialiste organise une primaire ouverte, et c'est l'outsider Benoît Hamon qui l'emporte face à l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Dans son programme résolument orienté à gauche, une proposition marque les esprits. Celle d'établir un revenu universel. Mais on a tendance à oublier un autre point assez significatif. Benoît Hamon était le tout premier candidat socialiste à soutenir la légalisation du cannabis.
Et autant dire que ça ne lui a pas beaucoup réussi. 6,4% des voix au premier tour, un effondrement du PS qu'il a d'ailleurs quitté dans la foulée de l'élection. Depuis 2017, Benoît Hamon s'est remis de sa défaite, d'abord en fondant son propre mouvement politique, puis en lançant son propre podcast, Si Si. D'ailleurs, il s'appelle Et Si, ce podcast, et il propose chaque mois une réflexion thématique sur le monde d'après.
Un podcast 100% antidéprime.
À l'heure où Benoît Hamon semble préparer la suite, on a eu envie de le rencontrer pour explorer plus en détail sa pensée sur la question du cannabis. Il nous a reçus chez lui, en banlieue parisienne, nous a offert le thé, et évidemment, on a parlé banane.
Banana Kush?
Tu n'es pas une vraie banane, mais tu non. Es un humain dans une banane.
Non mais laissez-moi,
moi.
Non mais laissez-moi,
moi.
Dans la banane.
Benoît Hamon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Banana Kush. Une première question pour crever l'abcès. Est-ce que vous consommez du cannabis, Benoît Hamon?
Non.
Non. Est-ce que vous avez déjà essayé?
J'ai déjà essayé quand j'étais en fac, donc il y a très longtemps, et... J'en ai pas un bon souvenir, ni un mauvais d'ailleurs. Mais après, j'ai dû fumer 2-3 lattes par-ci par-là, mais je suis pas consommateur. J'ai repris une latte d'un pétard il y a quoi, quelques années. Je crois que j'ai profondément endormi. Moi, je préfère les plaisirs lucides.
Avoir les idées claires, rester maître de vous.
Ouais, et puis après, il y a plein de... Non, mais j'ai aucun problème avec les pétards, hein, je vous le dis. Mais bon, moi, ça m'a pas fait monter au plaf, quoi. Voilà. Donc, je vous dis, j'ai plutôt surfoncé en mon matelas, donc, dans le second. Mais après, j'ai peut-être pas un bon, hein.
Ouais.
J'essaie un bon pétard. En fait, la vérité, c'est que j'ai absolument pas assez d'expérience pour vous dire. Hein.
C'est pas évident, en tant que, comme politique ou ancien homme politique, d'assumer qu'on ait une consommation de cannabis. Il y en a très peu, on a regardé un peu ce matin. Si vous étiez consommateur, est-ce que vous pourriez le dire dans votre position?
Oui, oui, absolument. Après, à partir du moment où la consommation de cannabis est illégale, il faut comprendre que ceux qui font la loi font attention à ne pas forcément le dire. Ce qui montre l'hypocrisie complète de ce système dans lequel on sait parfaitement que le cannabis est un usage assez généralisé, en tout cas on va dire démocratisé. Et pour autant, on maintient des interdits qui sont des interdits qui reposent uniquement sur une approche morale, ce qui est bien et ce qui est mal, du cannabis. On est dans une approche exclusivement morale, qui en tout cas pas une approche politique.
Alors en 2017, c'était dans votre programme la légalisation du cannabis. Vous étiez deux candidats à porter cette mesure avec Jean-Luc Mélenchon, mais vous avez été le premier à porter ce thème comme un thème de campagne. Comment est-ce que vous, dans votre parcours politique, vous êtes arrivé à être sensibilisé à cette question ?
Je ne saurais pas ni refaire le cheminement. Ce qui est très vite apparu, en tout cas pour moi, c'est que la prohibition, ça ne marche pas, première chose. Déjà, on observe qu'on ne pénalise pas de la même manière la consommation de cannabis selon les territoires. Donc, il y a déjà une application de la loi qui est pas du tout la même. Deuxièmement, pour rester sur la prohibition n'a pas empêché l'augmentation de la consommation, ce qui montre bien qu'elle n'a aucune espèce d'efficacité. Autre argument, c'est pour ça que j'ai cheminé vers la légalisation, à partir du moment où c'est illégal, il y a des trafics, et ces trafics engendrent une insécurité dans des territoires où l'économie du cannabis est devenue une économie dominante. Il y a une insécurité qui touche l'ensemble du territoire, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec cette économie-là. Bon, et enfin, il y a la question de la santé publique, c'est qu'il vaut mieux, selon moi, savoir qui fume et qui pourrait s'exposer à des pathologies liées à l'usage du cannabis que de ne pas le savoir. Donc, pour plein de raisons, j'ai cheminé vers ce qui me semblait être, c'est marrant de le dire à propos du cannabis, mais justement le plus raisonnable. Je pense que la légalisation est la voie de la raison. Et c'est intéressant de voir que la France, qui se targue d'être le pays des Lumières, et où on pense le bien à travers la raison, et pas simplement comme le résultat de la grâce, quoi, bah que ce pays-là, sur des questions comme celle-là, est tout sauf un pays qui convoque la raison. Descartes, les Condorcet, les D'Alembert sont très loin, hein, là. On n'est pas du tout dans les Lumières. C'est même c'est l'obscurité la plus totale, quoi. Pas dire l'obscurantisme.
Est-ce que vous pensez que cet a priori moral est lié notamment à notre culture française ? Parce qu'on a l'impression qu'en France particulièrement, on a du mal à regarder le cannabis pour ce qu'il est et pas avec un a priori, un filtre idéologique par rapport à l'alcool, par exemple.
Oui, il y a des addictions qu'on qualifiera facilement de drogue. Et puis, il y a des addictions qui ne souffrent pas du stigmate. L'alcool, en tout cas, jouit d'une sorte de c'est comme si, je sais pas, c'est exterritorialisé, quoi. Vous savez, c'est comme il y a le territoire des drogues et puis l'alcool est ailleurs. Bon, parce qu'il est lié aussi au bien vivre à la française, quoi. C'est le verre de vin à table, la chope de bière, etc. Bon, on n'associe pas du tout le cannabis à cela. Et si il y a un plaisir, c'est un plaisir illicite et dangereux, quoi. On reste dans une société qui dit ce que sont les bons et les mauvais plaisirs. Et pour l'instant, le cannabis est jugé comme un mauvais plaisir.
Mauvais, plafond fort.
Non, non, pas le maître.
Je reviens à la campagne de 2017, au moment où vous intégrez cette idée de la légalisation dans votre programme. Vous êtes encore candidat aux primaires. Dans la dernière ligne droite, vous êtes face à Manuel Valls, qui lui est très clair. Pour lui, il ne faut pas légaliser. Il dit même qu'il faut garder des interdits dans une société. Comment est-ce que cette proposition, elle est reçue au sein de votre propre camp ? On a l'impression que chez les socialistes, et puis même à gauche, c'est toujours quelque chose qui divise. C'est pas évident de se retrouver autour de cette question.
Bon, au Parti Socialiste, ça faisait longtemps que, si vous regardez, la quasi-totalité des propositions que j'ai faites n'étaient pas retenues par le Parti Socialiste. Elles ont été adoptées par les gens qui ont voté pour moi, hein, à ce moment-là, à la primaire, mais pas par l'appareil. Revenu universel, non. Taxe sur les robots, non. Perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Légalisation du cannabis, non. Reconnaissance de l'État de Palestine, non. Il y a tous les sujets, c'était non, donc bon. À l'époque, c'était quand même un peu compliqué sur le fond. Mais bon, ouais. La vérité, c'est que beaucoup de partis de gauche, vis-à-vis de cette question-là, considèrent que la légalisation du cannabis en campagne électorale, c'est un sujet trop secondaire pour prendre le moindre risque sur ce sujet. Je fais vite, mais le calcul électoral de base, ça pourrait être de dire « je vais pas m'aliéner le vote du petit retraité du perche qui a peur du cannabis, mais qui serait intéressé par ce que je dis, juste parce que je suis pour la légalisation. » Moi, j'étais facilement caricaturé comme celui qui voulait non seulement donner un revenu universel à tout le monde, donc c'était la prime à la fainéantise, j'ouvre les guillemets, hein, évidemment, et je les referme immédiatement, légaliser le cannabis, donc on voit bien, quoi, c'est un programme de baba cool, quoi, pour faire vite. Mais la vérité, c'est que c'est difficile d'argumenter contre la légalisation. Puis, je vais vous dire, dernière chose, je suis papa, moi. Je préférerais, si demain mes enfants veulent consommer du cannabis, moi je préfère qu'elles aillent dans un magasin que d'aller voir je ne sais pas qui, à l'ombre de je ne sais quel tour, et pour y rencontrer je ne sais quoi. Alors, il y en a qui vous diront, vous n'avez qu'à bien éduquer vos enfants. La vérité, c'est qu'évidemment, vos gosses, à des fois, ils font des choix qui sont des choix, fort heureusement, qui vous échappent ou qui échappent aux parents. Donc, si demain, elles avaient le désir de goûter, je préfère que ce soit dans le coffee shop que je sais pas où, il y a...
Ouais, puis il y a aussi la question de la prévention, de la sensibilisation de la jeunesse. Tant que le cannabis reste illégal, quelque chose de tabou et de caché, c'est difficile aussi d'expliquer aux jeunes, comme on a pu le faire pour l'alcool, pourquoi c'est pas pour eux.
Ouais.
Pas encore, en tout cas.
Vous avez raison, c'est que, en fait, à partir du moment où c'est interdit, bon, il peut y avoir du plaisir à ça, hein, aussi, à se dire, je fume un pétard, je sais que c'est interdit, je suis... Et d'ailleurs, certains disent, je fais une petite parenthèse, que si on fait tomber cet interdit, par goût de l'interdit, d'autres basculeront sur d'autres interdits. Bon, sans doute. Mais est-ce que ce sera la conséquence du fait qu'on a supprimé l'interdit du cannabis ? Le cannabis, il fera toujours le même effet. Il y a même une chose qui soit de meilleure qualité que si on légalise, que si on ne légalisait pas. Donc c'est vrai que ça changera sans doute dans le rapport ou dans l'usage du cannabis. On aura peut-être un rapport différent. Mais ce qui est certain, c'est que je préfère que les pouvoirs publics aient connaissance de la consommation du cannabis, du type de cannabis qui est consommé, de ses effets potentiels négatifs sur la santé d'un certain nombre de gamins, de commencer à construire des modèles aussi statistiques qu'on fait en matière de santé publique, pour construire une politique de santé publique, informer en toute transparence ensuite le consommateur potentiel, le faire assez tôt d'ailleurs à l'école et à partir d'informations qui sont des informations sérieuses, rigoureuses, plutôt qu'aujourd'hui ne communiquer que sur l'interdit et y compris accepter de raconter des sottises aux gamins parce qu'on n'a pas le droit de dire que le cannabis ça peut être utile pour soulager la douleur, ça peut participer d'un certain nombre de thérapies qui sont aujourd'hui reconnues. Bon bref, et que c'est pas forcément un truc qui te rend dingue, parano et qui va t'amener à devenir fou et être dangereux pour le reste de la société.
En gros, ce que vous nous dites, c'est que légaliser le cannabis, c'est le contrôler. Et est-ce que, en termes d'ailleurs de communication, il serait pas judicieux de ne pas utiliser le mot légalisation qui peut faire peur pour parler de réglementation, de régulation?
Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut nommer correctement les choses. Légalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, j'ai le droit de vendre, j'ai le droit de cultiver, de consommer du cannabis. Et du coup, la puissance publique organise les règles pour encadrer ce marché-là. Les conditions dans lesquelles j'ai le droit de cultiver, les conditions dans lesquelles j'ai le droit de vendre, ce qui se fait dans le cadre aujourd'hui de la parapharmacie, ce qui se fait dans le cadre d'un débit d'alcool, de tabac. Et puis, les conditions dans lesquelles je peux consommer. Est-ce que je peux fumer mon pétard partout? Est-ce que, je veux dire, par exemple, on n'a pas le droit de se bourrer la gueule dans la rue? Il me semble que tout ça, on est quand même capable, dans une nation comme la nôtre, de se mettre autour de la table. On a des scientifiques, des médecins de grande qualité. On a un État qui sait faire ça. En quelques années, on pourrait le faire.
Banana Cush.
We have no bananas.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today.
Alors moi, j'avais été prudent à la présidentielle. J'avais dit, il faut faire une expérimentation, d'ailleurs, pour dire, bon, OK, on commence dans un endroit et on regarde ce que ça fait. Ce qui me semble, d'ailleurs, faire sens, hein, d'essayer de voir comment, si on dit, demain à Dijon, c'est légalisé. Non, il y aura plein de monde à venir à Dijon, ça leur fera du tourisme. Mais bon, imaginez qu'on dit, voilà, tel département, on essaye et on voit ce que ça donne. Ça pourrait faire sens. Et puis au bout d'un an ou deux ans, on décide de généraliser ou pas.
Moi qui viens de Dijon, j'approuve votre proposition.
Non, en tout cas, le maire de Dijon, il serait totalement contre. Ah ouais, dans le genre crispé, lui, sur ces sujets, à mon avis, il doit être assez sévère.
Mais ce que vous dites fait écho justement à une proposition du maire de Reims, Arnaud Robinet, qui en plus plutôt du
droite,
qui
est, ouais,
chez les Républicains, ouais, maire de droite, qui en septembre a adressé une lettre au Premier ministre Jean Castex pour lui demander d'expérimenter une légalisation du cannabis dans sa ville. C'est une des premières fois qu'en fait on entend des voix de droite porter cette proposition-là. Et récemment, on a lu pas mal de tribunes dans la presse signées par des députés, des sénateurs, des élus de tous bords autour de cette idée d'organisons un débat et ouvrons ce débat-là. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, comme si la classe politique prenait conscience de quelque chose.
Je pense que quiconque est confronté aux tragédies parfois du cannabis illicite et des trafics à grande échelle et de l'insécurité de la violence liée à ces trafics. Et ces idées froides vont la position qui est celle qui consiste à dire circuler, il n'y a rien à voir. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui ne change rien au problème de la consommation et des addictions. C'est que, en fait, c'est zéro pointé sur tous les plans. Sécurité publique et santé publique. On est des nuls, archi nuls. Mais on continue parce que c'est pas bien. Voilà, il y a des gens qui ont décidé que c'était pas bien. Bon, Robinet, il est maire, il a des quartiers à Reims qui sont des quartiers dans lesquels il y a forcément du trafic de cannabis, il y a forcément des violences liées au deal, et il doit voir que c'est pas parce qu'on met un dealer en prison que le trafic ne ressurgit pas. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura une offre, bah, autant qu'on nationalise en quelque sorte. Et ça fait sens. Bon, voilà, il y a quand même des types, des sénateurs ou des députés qui vont rentrer avec 3 grammes le soir après un bon banquier avec leurs copains conseillers départementaux, j'exagère, mais bon, ou 1,5 g, et qui vont vous expliquer que le cannabis, c'est pas bien. Bon, je pense que les plus dangereux sont pas forcément ceux qui ont fumé du shit, même si fumer du shit avant de conduire, c'est pas bien non plus.
Toi, Charlotte, tu sais ce que c'est qu'un pare-brise, hein ? Eh oui ! Si aujourd'hui tu ressembles plus à Albator qu'à Candy, c'est parce que ta maman, elle flûte !
Au niveau de l'opinion publique, comment vous pensez que la population, est-ce que la population française est prête, a envie de passer le pas ? Comment a été reçue votre proposition en 2017 dans votre programme électoral ?
Elle a été assez peu discutée, honnêtement. Ouais. Le revenu universel a un peu saturé la proposition générale. Il faut bien sûr essayer de fabriquer du consentement de la population. Mais je pense que le consentement véritable de la population succédera à la légalisation. C'est qu'on est, comme législateur, presque en devoir de faire bouger les lignes. Ce n'est pas un mépris vis-à-vis de l'opinion des gens. C'est que je pense que le rôle du législateur, c'est de légiférer en fonction des informations qu'il a, pas juste de l'avis que peut avoir un tel sur un sujet qu'il ne connaît pas.
Tout à l'heure, vous disiez que la position du gouvernement actuel sur le cannabis, c'était un peu circulé, il n'y a rien à voir. En revanche, il y a quand même quelque chose qui s'est passé là en septembre. C'est l'application de la nouvelle amende forfaitaire qui va pénaliser les usagers de drogue et en particulier de cannabis. Donc désormais, on est passible d'une amende entre 250 et 400 euros selon le tarif minoré majoré, qui est censée désengorger les tribunaux, le travail de la police et un peu systématiser la répression pour décourager la consommation. Est-ce que ça vous paraît une mesure qui fait sens ?
Moi, je pense que ça n'aura quasiment aucun effet. Les partisans de la répression augmentent la pression sur le consommateur en espérant qu'il consommera moins. Je pense que c'est, pardon de le dire, c'est encore une mesure de faux cul. Des hypocrites et des faux culs. Et Darmanin le sait. Et donc, en l'espèce, c'est le roi des faux culs, avec le Premier ministre et le Président de la République. Et en plus, on va faire supporter le poids de cette hypocrisie-là financièrement sur le dos des consommateurs. Bon, ça me consterne assez, parce que c'est assez symptomatique de ce réflexe qui est celui du pouvoir actuel, de restreindre les libertés et de choisir la répression, de prendre les gens pour des ignorants, des incapables, des imbéciles.
Gérald Darmanin, d'ailleurs, à propos de la légalisation, a parlé de lâcheté intellectuelle.
Pour cette merde de cannabis.
Donc il a des mots très durs à l'encontre des partisans.
La drogue, c'est de la merde. La drogue, c'est de la merde.
Darmanin, il est candidat à l'élection présidentielle après Macron. Il se fait son petit costume de chez Fayon. Le modèle, c'est Sarkozy qui est passé par la place Beauvau. Donc, il est aujourd'hui, c'est lui qui a repris les mots de l'extrême droite sur l'ensauvagement. Il fait un texte de loi sur le séparatisme, qui est un texte directement inspiré du vocabulaire de l'extrême droite. Ça va mal finir, cette histoire. Faut pas s'arrêter aux mots de ces gens-là, je veux dire. Vous êtes des aigles, ils sont des mouches. Et comme dit ce proverbe, aquila non capit muscas. Les aigles ne mangent pas les mouches ou n'attrapent pas les mouches. Donc ne vous préoccupez pas des mouches.
Est-ce que c'est de la conviction idéologique ou est-ce que c'est volontairement de la provocation, de la manipulation, de la démagogie ?
Qui fait ?
Oui, quand on met en place l'amende forfaitaire, quand il dit que la légalisation, c'est de la lâcheté intellectuelle.
Oui, oui, on y est. Et puis on est dans le registre du ministre de l'Intérieur qui doit être forcément martial. Lâcheté, c'était tout de suite des grands mots. Bon. La lâcheté, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a un problème de santé publique. La lâcheté, c'est de ne pas reconnaître que cette politique de la prohibition, elle ne marche pas. La lâcheté, c'est de ne pas regarder les expérimentations ailleurs et au moins essayer de s'ouvrir à cela. Il y a une mission parlementaire en ce moment à l'Assemblée nationale qui travaille sur la question du cannabis, et les échos que j'ai, elle travaille plutôt bien, essayer justement de revenir à la raison. Et qu'est-ce qui va expliquer Darmanin que la majorité dont il est issu aujourd'hui c'est une majorité de lâches? Bon, ces gens-là sont pas sérieux.
Lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien.
Banana Cush, Camille Diao, Christophe Payet.
Depuis 2017, il y a pas mal de choses qui se sont passées concernant le cannabis. En tout cas, le sujet est plus présent dans les médias et plus présent dans l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un thème de campagne en 2022 en France, ou que je m'avance déjà un petit peu là?
Bah, dans une société qui se durcit, avec un débat politique qui se durcit, où la violence des projets politiques, la violence des idées qui sont portées par les dirigeants politiques qui est de plus en plus forte. On essentialise les gens, donc les fumeurs de cannabis sont essentialisés dans une sorte de rapport. D'abord, ils ne sont pas travailleurs, sont donc des drogués, donc sont des parasites. Donc on caractérise, on affuble les gens de stigmates qui presque leur dénient la singularité et l'humanité. Et c'est un peu la marque de notre époque. Donc, dans un moment où la société se durcit, où les gens ont envie d'en découdre, de sévir, je pense que le sujet qui appelle à la raison, à l'intelligence, va être un sujet compliqué à défendre. Alors, moi, si j'avais été candidat une deuxième fois, je l'aurais défendu pour la même raison que je l'ai défendu la première. Peut-être que d'autres le feront, mais je sens qu'il risque d'être un peu caché, ce sujet-là.
C'est marrant parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est arrivé dans le débat public européen et même mondial, avec une vague de légalisation au Québec, aux États-Unis dans un certain nombre d'États, en Europe, sur le cannabis au moins thérapeutique dans de nombreux États. Mais on a l'impression, à vous écouter, qu'on n'aura jamais été aussi loin d'une potentielle légalisation, au moins dans les mentalités des dirigeants, des politiques.
Je pense que ce n'est pas parce que vous avez plus de dirigeants qui assument cette position-là, ce qui est le cas, mais qui est une bonne chose, que pour autant, ceux qui aujourd'hui ont les clés vont bouger. Et ce courage-là, qui est de dire lucidement, dans la période actuelle, vu la montée des périls, il faut prendre des décisions qui sont des décisions qui systématiquement parlent à l'intelligence, c'est-à-dire faire cet effort-là, ce courage-là, je le rencontre peu. Alors, je suis un portrait de la vie politique, mais je l'ai peu rencontré. Et si je me réjouis de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est de la proposition du maire de Reims de légaliser, en tout cas de faire l'expérimentation chez lui. C'est bien qu'il y ait des gens qui disent ça, mais je crois qu'aujourd'hui, hélas, l'air du temps n'est pas au courageux. Ce qui est bien, c'est que des formats comme les vôtres contribuent. Mais il faut qu'on continue à faire de la pédagogie, quoi. Il ne faut pas désespérer, quoi, des gens.
Banana Cush sur Nick, la radio.
I'm a banana, I'm a banana.
Tiens, Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
Pour conclure, peut-être quelle modalité de légalisation vous trouvez souhaitable selon les pays, selon les expérimentations? On peut avoir différents types de règles qui accompagnent et qui entourent cette légalisation. Quelles sont les règles qui vous paraissent être les meilleures?
Moi, je dirais, écoutez, première chose, expérimentons sur des territoires qu'on choisit, un territoire rural, un territoire périurbain et un territoire très urbanisé. Ce qui suppose donc plusieurs choses, c'est quels sont les instruments sanitaires qu'on met en place pour avoir connaissance des usages du cannabis. Du côté des médecins et des spécialistes de santé publique, voilà, quels sont les instruments de contrôle qu'on met en place pour contrôler la qualité du cannabis et qui est vendu, qui vient en consomme, comment on peut s'assurer un suivi d'un certain nombre de personnes dont on estime qu'elles sont potentiellement des consommateurs à risque. Première chose, je mettrai en place des instruments évidemment d'observation de l'évolution de l'insécurité dans les territoires qui sont des territoires où de facto, on vient plus acheter de cannabis parce qu'on peut en acheter pas au bureau de tabac, mais on voit bien l'équivalent. Puis ensuite, je poserai des règles qui sont les règles de consommation, qui sont de dire, c'est la même chose que pour l'alcool. on ne consomme pas ça n'importe où, dans n'importe quelles conditions, et je poserai des règles. Bon, une fois l'expérimentation a eu lieu, qu'on est capable d'observer ce que sur ces territoires ça a donné sur la santé publique, le suivi des consommateurs et la sécurité, ben on fabrique une loi, on concerte et on fabrique une loi, on regarde qui veut cultiver, ben je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui seraient bien contents de faire du cannabis aujourd'hui, parce que ça rapporterait un peu plus qu'aujourd'hui.
En plus, il y a déjà une filière chanvre qui existe en France qui est assez importante historiquement.
Vous me l'apprenez, en plus, moi je ne suis pas spécialiste. Donc il y a toute la filière agricole, il y a toute la filière distribution, comment ça s'organise, qui a le droit d'avoir une licence, est-ce que c'est des coffee shops à la néerlandaise, j'en sais rien, moi, honnêtement, tout est ouvert. Moi, c'est pas un dirigeant politique d'aller dire bon, bah, jusqu'à la virgule, voilà comment ça va se passer, et qui a le droit d'y rentrer et qui n'a pas le droit, évidemment. Une condition, c'est d'être majeur aussi. Bon, voilà, c'est comme ça que j'imagine les choses. Mais honnêtement, ça prend quoi ? Un an d'expérimentation ? Allez, on te fait traîner un peu, un an et demi ? Le rapport qui est réalisé ? 6 mois ? À partir de ces 6 mois, on rend un rapport et on construit un texte de loi et les décrets qui vont avec pour organiser les filières, etc. Ça met un an supplémentaire et on fait voter le texte. En 3 ans, 3 ans et demi, ça traîne un peu, il y a du débat, il y a des manifs, nanana. Bon, allez, 4 ans. Qu'à sur un mandat d'un président, c'est sûr que vous pouvez le faire, quoi.
Eh ben merci beaucoup Benoît Hamon.
Mais merci à vous, un plaisir
d'avoir répondu à notre invitation dans Banana Cush. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 2 petites minutes après le générique pour notre traditionnelle banane de fin.
Nick, la radio présente.
Il a une banane dans l'oreille.
Ouais, il a une banane dans l'oreille.
Ah ouais, il a une banane dans l'oreille.
J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi ?
Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Avant de conclure ce podcast, on voulait revenir sur un point de la discussion. Vous vous souvenez quand Benoît Hamon explique que pour lui, le consentement de la population succédera à la légalisation, un peu comme ce fut le cas pour l'abolition de la peine de mort en 1981.
Eh bien, pour en avoir le cœur net, on est allé relire le dernier sondage sur la question qui a été mené en 2018 par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Lorsqu'on leur demande leur avis sur la légalisation du cannabis, 47% des Français se déclaraient plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. 10 ans plus tôt, en 2008, il n'était que 31%. L'opinion publique française bouge et sans attendre le législateur.
C'était l'épisode 14 de Banana Cush, Christophe et Camille au micro, avec évidemment la talentueuse Charlène Nouyoups à la réal.
On se retrouve dans 15 jours avec un épisode consacré à la consommation de cannabis entre 4 murs. On vous emmène dans un monde où le shit joue encore plus qu'ailleurs un véritable rôle social. En zonzon, en tôle, en prison.
D'ici là, on attend vos 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, vos likes, vos partages sur Facebook, Twitter, Instagram. Ça nous aide à garder la banane.
On vous embrasse comme toujours et on vous dit à bientôt.
Bye.
Blanche-Neige, Sticky, Trip et Joint, Hervé Voyage au bout de l'acide lysergique, dit-il, la mine et la nuit.
Nous retrouvons donc Benoît Hamon pour cette banane de fin dans Banana Cush.
C'est une vraie banane.
C'est une vraie banane. Une jaune ou une verte ? C'est vous qui la choisissez.
Moi, je suis plutôt jaune. Hein. Mais parce que je vois pas bien ce que je ferais de la verte. Donc,
Même pas un jour pour un petit coup de stress avec la vie politique, ça doit être un peu...
J'ai été fumeur de tabac. Et en fait, c'est depuis que j'ai arrêté la clope, pourtant je fumais beaucoup, hein, j'ai du mal. Mais je suis pas du tout allergique. Vous avez le droit de fumer à côté de moi. Ça ne me gêne pas. Puis je vais montrer ça à ma grande qui a 12 ans. Je lui dis, tu sais ce que c'est ? Elle me dit, oh, papa.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Mais j'imagine que Banana Cush, vous avez des bons pétards. Enfin, si vous n'en avez pas, c'est que c'est...
On a des bonnes bananes, mais on en reste là.
Mais merci pour la banane verte quand même. Hein. C'est vrai que j'ai pas le droit de dire pétard, en fait, c'est ça ? Pour savoir que vous dites banane... Ouais. Non, c'est vrai ?